Alors, je vais dire quand même deux mots de celui-là. Au départ, là aussi, c'était très excité. C'était des accouchements extraordinaires. C'était pour Actuel. C'était sur la piste des dauphins. Moi, j'ai pas mal travaillé sur le rapport entre les humains et les dauphins. Et ça m'a amené aux États-Unis, en Russie, dans pas mal de coins. Et c'est en Russie que je suis tombé sur la connexion avec les bébés. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, on peut dire, une sorte de secte complètement à nourrir un film de Tarkovsky. Une grande secte, une belle grande secte, je ne sais pas quoi, à la Tolstoï, à la Dostoïevski, comme seuls les Russes peuvent faire, qui en gros m'a fait que je me suis retrouvé au bord de la mer Noire dans un camp. C'était l'Union soviétique, c'était interdit, on était clandestins. Imaginez un camp de naturistes caché dans les rochers, dans un endroit où les gardes-côtes ne devaient pas nous voir la nuit quand ils éclairaient. Et ce camp de naturistes a ceci de particulier, c'est que la plupart des femmes sont enceintes. Elles étaient très belles, et elles nageaient, elles avaient déjà des enfants, elles avaient leur mec, et tout ça, c'était complètement irréel. Et certaines accouchaient dans la mer. Et donc je revenais moi à Paris, ensuite je racontais ça dans le journal, et j'ai été pendant quelque temps un collectionneur d'accouchements extraordinaires. Ce qui a fini quand même par agacer ma femme, parce que... Moi, les accouchements que j'avais vus de près, qui étaient les naissances de mes enfants, c'était des accouchements ordinaires et même très difficiles. Et donc, ce type qui collectionne les accouchements extraordinaires, qui en ramène des vidéos, un peu comme presque comme on ramènerait des estampes japonaises, ça avait un côté un peu déplacé. Et quand j'ai fait mon livre sur les dauphins, il y a toute une partie qui a giclé, qui était sur cette bande de Russes. Et ces chapitres extraordinaires, je les ai gardés. Et j'ai commencé à essayer d'en faire un livre, et puis ça ne venait pas. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte, un petit peu comme l'acte 1 et l'acte 2 de tout à l'heure, que j'étais parti dans une histoire, non pas masculine, mais en tous les cas très spectaculaire, très... Oui, spectaculaire, c'est peut-être le mot qui suffit. Et que si je voulais faire un livre, il fallait intégrer d'une manière plus, là aussi, descendre, et de manière plus pratique, et de manière plus compassionnelle. Et donc, si j'ai mis 20 ans, c'est parce que peu à peu, il y a quelques accouchements extraordinaires qui sont restés, parce que c'est tellement beau. Mais peu à peu, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'ordinaire. Tu vois, l'INRES, c'est... vous avez fait tout un réseau pour étudier les expériences extraordinaires, mais par exemple toute naissance est complètement extraordinaire. Toute naissance, je veux dire, d'abord toute existence. Plus ça allait, plus je me rendais compte que j'avais pas besoin d'aller chercher des trucs spectaculaires, extraordinaires, des femmes qui accouchent en se jetant d'un avion, je sais pas quoi, ou dans la mer, ou c'est très beau, c'est très bien. Je sais pas si vous avez vu le film Le Premier Cri. C'est magnifique. Il y a un peu de tout d'ailleurs dans ce film. Mais par exemple, il y a cette femme au Mexique qui accouche dans une piscine, qui se prépare dans une piscine, et puis qui finalement d'ailleurs ne va pas pouvoir accoucher avec les dauphins. Enfin bref, ce qui me frappe complètement, c'est que chaque naissance est une histoire complètement dingue. Chaque grossesse, à chaque fois que je vois passer une femme enceinte, je dis un mantra, parce que c'est l'avenir du monde qui est là. Puis alors, peu à peu, je me suis rendu compte, à mesure que je rencontrais des obstétriciens, des sages-femmes, puis que peu à peu, je menais une enquête un peu tous azimuts, que cette impression peut être fondée sur des éléments tout à fait objectifs. Par exemple, quand l'embryon commence au moment de la conception, il se met à se développer, comme vous savez. Vous avez blastula, gastrula, morula, je ne me rappelle plus l'ordre. Ça se développe 2, 4, 8, 16 cellules. Si ça continuait à cette vitesse-là, là, si la phase embryonnaire qui dure quelques semaines, si elle continuait pendant les 9 mois, à la fin des 9 mois, le bébé serait à peu près aussi gros que la planète Terre. C'est-à-dire que c'est une espèce de bolide incroyablement puissant qui est accueilli dans le ventre de la femme. C'est un bolide et cette sorte de météore qui arrive dont on ne sait où. Alors, bon, ce météore, au début, c'est vrai que c'est un extraterrestre, il arrive avec cette vitesse folle, il a une énergie considérable, c'est un géant, c'est Bernard Monteau qui appelle ça le géant, mais je comprends bien. C'est le professeur Relier, qui était le successeur de Minkowski à l'unité de néonatologie qui accueille les très grands prématurés à Port-Royal. C'est lui qui dit, si ça durait 9 mois, il serait gros comme la planète Terre. Et ce bolide, il est ralenti à partir de la 7e, 8e semaine, grosso modo, il est ralenti par pourquoi ? Il est ralenti parce que commence à s'ouvrir ses fenêtres sensorielles, et donc son rapport au monde, et donc sa relation à l'autre, et d'abord évidemment à sa mère. Et donc ce bolide extraterrestre, il est peu à peu ralenti par sa relation, et c'est le fait qu'il se mette en relation qui fait qu'il va devenir un humain, et qu'il va devenir, ce géant va devenir peu à peu petit. Alors, moi j'ai divisé mon livre sur la naissance en 5 parties. La première, c'est une introduction en musique. Ça serait trop long à expliquer, mais on entre en musique. Puis ensuite, il y a la bataille. Parce que accoucher, c'est une bataille incroyable. Et moi, ce qui me frappe, et c'est sans doute évident pour la plupart des femmes, et surtout celles qui ont enfanté, mais moi, je l'ai découvert peu à peu, parce qu'on ne me l'avait pas dit, c'est que les femmes qui enfantent, eh ben, elles sont initiées. On dit souvent que dans notre monde, il n'y a plus d'initiation. Et en particulier que ça manque énormément aux jeunes, parce que l'adolescent n'est plus, ou l'adolescente n'est plus initié au sens où on initiait dans les sociétés traditionnelles. La femme qui enfante, je suis désolé, elle est initiée et sacrément. Elle est sacrément initiée. Ce qu'elle vit, ça touche tout son être, ça touche son corps, ça touche son souffle, son esprit. Comme vous le savez, dans toute initiation, il y a un couplage très puissant de mort-renaissance. Or, pendant la grossesse et en particulier dans l'accouchement, c'est la naissance, mais on n'est pas loin de la mort. Et alors, heureusement, la médecine moderne a fait en sorte que c'est de moins en moins souvent la mort, parce que jadis, c'était souvent... un pourcentage remarquable, enfin fort de femmes mouraient en couche. Maintenant, heureusement, ça n'est plus le cas, mais ça reste une initiation. Et ce qui est important, et je comprends toute la démarche de tout un tas de sages-femmes et de tout un tas aussi d'accoucheurs, et bien entendu de femmes qui accouchent, de vouloir préserver le côté sacré de cette initiation. Et alors, il y a un danger, parce que la médicalisation à outrance, l'anesthésie générale de tout ça à la fin pourrait pousser à une banalisation. Alors ça, c'est la partie que j'ai appelée bataille. Ensuite, il y a une partie aquatique, parce que quand même je suis rentré là-dedans par les dauphins, par l'eau, et il fallait que je rende quand même non pas à César, mais à Mami Wata, diraient les Africains, c'est-à-dire à la mère, à la mère océan, que je lui rende hommage, et je parle des accouchements dans l'eau en essayant de rendre ça le plus raisonnable possible, parce que ça fait peur en France. En France, on est très craintif actuellement, alors que ça, dans toute l'Europe, ça s'est développé. Il n'y a qu'en France que c'est presque interdit. J'estime que c'est en Belgique, à Ostende, que s'est développée la plus belle école, la plus intéressante. Ça, c'est... Et puis ensuite, je rentre dans une 4e partie qui, pour moi, est très très importante, et qui est Eros. Parce que, malgré tout, cette histoire d'enfantement, ça commence par, par un moment complètement génial, quand même, sans lequel la vie ne vaudrait peut-être pas tout à fait la peine d'être vécue. Pas mal de copains m'ont dit de faire très très gaffe parce que ça pouvait paraître réactionnaire. En gros, de rappeler que l'enfantement c'est érotique. En disant, mais à la limite, presque quel rapport, parce que c'est vrai que en tant que 68ard, je fais partie d'une génération qui a essayé le plus possible de disjoindre, n'est-ce pas ? D'un côté, on fait l'amour, puis de l'autre, on fait les enfants, mais à la limite, ça n'a plus aucun rapport. Ben si, ça a quand même un rapport, même si c'est complexe. Et même si, je m'en suis rendu compte, énormément de gens sont nés, malheureusement, pas d'un orgasme. Et je suis d'accord avec Alexandro Jodorowsky qui dit « Le droit du fœtus... » parce que Jodorowsky prépare la déclaration des droits du fœtus. Et dans le droit du fœtus, il y a « J'ai le droit d'avoir été conçu dans un orgasme. Sinon, par pitié, ne me construisez pas en dehors de ça. » Donc, voilà. J'ai fait toute une partie là-dessus. Et la dernière, eh ben, ça s'appelle Cosmos. Et dans la dernière, eh ben, j'aborde alors les questions. J'aurais dû commencer par ça, mais il va falloir conclure. Cosmos, c'est que évidemment, on se demande d'où ça vient, d'où il vient ce bolide. Alors, je suis allé frapper à plusieurs portes. Je suis allé frapper à une porte pas facile, politiquement incorrecte, la porte de l'avortement. Je me suis quand même couvert. Je suis allé voir des lamas bouddhistes. Si j'avais été voir directement des chrétiens, évidemment, on m'aurait dit « Ah, les bouddhistes ont un discours intéressant. Ils sont contre l'avortement, a priori. Ils disent « Si on peut l'empêcher, ben, il vaut mieux, parce que c'est quand même une vie. » Maintenant, ça n'est pas interdit. Et alors, là, avec le lama Denis Tundrup, qui est le patron de Karmaling, on a eu une conversation intéressante, parce que je vous disais, mais dans le livre des morts tibétains, est-ce que je me trompe ou il est bien dit « Oh, fils très noble » ou « Oh, fille très noble » qui vient de mourir ? Voilà, vous connaissez le livre tibétain des morts, vous savez comment ça se passe, on dit « Oh, fils très noble, oh, fille très noble, tu viens de mourir et tu vas voir la radieuse vacuité, l'ultime réalité » splendide, étincelante, enfin, il n'y a pas les mots assez forts, et évidemment tu vas la rater. Donc tu vas être attiré. Pourquoi ? C'est pas prêt. Et donc tu vas être attiré par l'éterne lumière. Tous, hein, attendez, c'est très rare qu'on ne soit pas attiré finalement par l'éterne lumière, d'après le livre tibétain des morts. Et donc tu vas être attiré par l'éterne lumière, et donc tu vas être attiré par les couples qui font l'amour. Et ben, à ce moment-là, ben, tu n'as pas d'autre chose à faire qu'à prier tous les bodhisattvas de te guider vers une bonne matrice. Et alors un ami à moi, qui est un musicien africain qui s'appelle Relema, m'avait dit, parce qu'on parlait de ça, et il m'avait dit, tu sais, moi, à mon avis, l'âme de celui qui est mort choisit sa matrice à peu près comme un ivrogne choisit son bar. Alors... j'ai demandé à Lama de Nittendrup s'il était d'accord avec cette image. Alors évidemment, d'abord, il a pris des... Il a dit, oh là là, l'âme, attention, oh là là, chez les bouddhistes, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ego, ça se dissout et tout. Il y a bien... Bon, tu sais, c'est l'éternelle question, débat avec les bouddhistes. Alors donc, ça se réincarne, qu'est-ce qui se réincarne ? Ah, c'est compliqué. Oui, il y a quelque chose qui se réincarne, oui, c'est vraiment quelque chose qui se réincarne et qui peut se rappeler, oui, mais c'est pas vous, non. Alors donc c'est ce que disent les gens qui ont vécu des NDE, qui disent, oui, il y a la réincarnation, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est la conscience, c'est la conscience, il faut bien s'imaginer des flux de conscience qui sont en résonance avec quelque chose, et il me dit en effet, donc il n'y a pas d'âme. Mais, en effet, le flux de conscience qui est attiré, enfin qui va finalement se tendre vers une matrice, ce flux de conscience, en effet, en général, il n'a pas le choix. Contrairement, parce que, de ce point de vue-là, on ne choisit pas sa naissance, comme on dit, la chanson de Maxime Le Forestier, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, eh bien il a raison. Il a raison, c'est plutôt comme ça en général. Alors que dans les milieux New Age, en général, on choisit. Et c'est vrai que Elisabeth Kubler-Ross, moi, m'avait peut-être induit en erreur, mais elle faisait peut-être allusion à des âmes très éveillées, enfin des flux de conscience, je sais pas quoi, très éveillées, puisqu'elle m'avait dit que sa part créatrice, dirait Gita Malache, sa moitié créatrice, sa moitié intemporelle, lui avait dit un jour, je me réincarnerai dans un enfant qui mourra de faim. Et elle lui avait dit, quelle idée idiote. Y a-t-il pire gaspillage? Et la voix lui avait répondu, non, c'est vraiment, j'en ai besoin pour agrandir mon sens de la compassion.